Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Histoire générale de l'Afrique, les mémoires de l'esclavage. L'esclavage des Africains dans le monde a été l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Il faut dire que l'esclavage n'a pas été spécifiquement propre à l'Afrique, puisque tous les peuples, à un moment donné de leur histoire, ont été, en raison de guerres, en raison de leur faiblesse interne par rapport à leurs voisins, exposés justement à cette calamité. Mais l'Afrique a cette particularité que l'esclavage auquel ses habitants ont été soumis a été un phénomène de très 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 longue durée. Quand on se limite à l'esclavage atlantique, on commence à la fin du 15e siècle jusqu'au 19e siècle, puisque le Brésil, le dernier pays où l'esclavage a été aboli, l'a aboli seulement en 1888. Mais il faut savoir que vers le haut, l'esclavage des Africains n'a pas commencé au 15e siècle. Il a commencé beaucoup plus tôt. On parle souvent du 7e siècle, lorsque les Africains sont déportés vers la Mésopotamie pour produire du sucre, vers l'Inde, mais aussi vers le sud de l'Europe. En même temps, n'oublions pas que les Africains n'ont pas été que des esclaves, parce que dans ces époques anciennes, nous avons par exemple la famille des Septime Sévère, qui ont été des empereurs romains venus d'Afrique, et nous avons aussi quelqu'un comme Saint Augustin, qui a été aussi l'un des grands maîtres de l'Église chrétienne, qui est aussi un Africain. Mais si on regarde bien dans la balance, la durée de l'esclavage et le poids de l'esclavage aujourd'hui l'emporte encore sur ces périodes d'indépendance. Nous recevons pour en parler aujourd'hui deux artistes, deux producteurs. D'abord, Don Pedro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, et avec vous, Nicolas Localzo, vous aussi, vous êtes artiste. Vous faites beaucoup de choses, de la photographie. Alors expliquez-nous un peu, Don Pedro. Vous avez fait un film très remarqué, Tango Negro, mais vous n'avez pas fait que ça.
Je n'ai pas fait que ça. D'abord, bonjour aux auditeurs, et puis je suis très très honoré de faire partie de cette émission Mémoire d'un continent. Pourquoi est-ce que, parlant d'esclavage, nous sommes africains, donc je ne dirais pas qu'on doit privilégier ces continents, mais puisqu'il s'agit de nous-mêmes, on parle de ces continents. D'autant plus que je viens d'un grand royaume qui s'appelle encore l'ancien royaume du Congo, où sont venus de nombreux Africains esclavagisés, qu'on trouve à la fois à l'Amérique latine, à l'Amérique du Nord, un peu partout. D'ailleurs, j'ai fait allusion aux travaux, notamment de Rachidi, qui démontrent qu'il y a eu effectivement les gens venus du Congo, notamment en Asie du Sud-Est. Quand on parle de Mekong, pour lui, il fait un lien entre les royaumes Congo et le Mekong, le fleuve. J'ai opté pour faire ce travail en lien avec notre passé, parce que j'ai compris l'importance d'abord d'évoquer le passé pour mieux essayer de mieux gérer le présent. Le film Tango Negro va dans ce sens-là, mais je ne pouvais pas faire ce film sans avoir un antécédent. C'est-à-dire qu'en 2003, j'ai été l'auteur d'un film qui s'appelle Kinmalebo Danse. En fait, c'est un film qui essaye de montrer les origines de la musique dite rumba. Or, rumba, c'est pour cela que j'accorde une grande importance à la linguistique, rumba n'est autre que la déformation du mot de la langue officielle du royaume, le Kikongo, qui s'appelle Nkumba. Nkumba en français, nombril. Donc, à partir de là, je me suis lancé ce défi pour faire la démonstration des origines de cette musique, et qui a donné après la cumbia en Colombie et consort. Et donc, parlant du tango, le dernier film qui me fait promener à travers le monde entier, là aussi je suis parti du principe linguistique qui fait que tango n'est que la déformation du mot ntango. Ntango, en Kikongo, ça a donné d'ailleurs une langue qui s'appelle Lingala, parlée à la fois à Kinshasa, Brazzaville et aujourd'hui à Luanda. Tango signifie aussi soleil. Donc, à partir de là, nous avons des traces qui ont fait que moi, j'y sois tout de suite sur cette piste qui m'a amené jusqu'en Amérique latine pour montrer que, effectivement, il y a de l'africanité au sein de la musique tango, un tango, et que, par-dessus tout, montrer aussi la présence physique des Noirs dans un pays comme l'Argentine et l'Uruguay.
Nicolas Localzo, vous êtes en ce moment en train d'exposer. Il y a une exposition
oui,
de vous.
Exactement. Il y a une exposition de mon travail, de la dernière série notamment, qui a lieu à Vichy, dans le cadre du festival Portrait, organisé justement par la ville, par la mairie de Vichy. Et c'est la dernière série concernant le travail que j'ai développé à Cuba, dans le cadre de mon projet à long terme sur les mémoires des esclavages.
Qu'est-ce que vous exposez? Des photographies?
Oui, en fait, le peintures. Travail, quand je fais appel au concept de mémoire, c'est vrai que c'est pas évident de l'associer à quelque chose de matériel, de visible. Mais en fait, les mémoires, c'est en fait la façon dont les peuples, les communautés, les individus, les groupes aussi se rapprochent de leur passé. Et donc tout cela, ça passe par des pratiques qui sont existantes, qui sont concrètes, qui sont réelles. C'est des pratiques qui ont été élaborées à l'époque du premier colonialisme, à l'époque de l'esclavage, du système de la plantation coloniale, et sont des pratiques qui existent de nos jours. Donc moi j'essaie de pas vraiment de répondre à des questions, mais plutôt de poser des questions. Pour quelles raisons ces pratiques existent aujourd'hui, à quels besoins ils répondent, et l'idée c'est aussi de montrer quelque part comme dans l'abîme de la plantation coloniale, aussi dans l'abîme de la cale du navire négrier, et les productions culturelles ont été extraordinaires. Et c'est grâce à ça aussi que la résistance a pu avoir lieu. Donc c'est un travail qui est sous les mémoires des esclavages, mais si je peux préciser, c'est aussi sous les mémoires de la résistance à l'esclavage.
Oui, parce que dans cette histoire de l'esclavage, l'une des choses importantes, c'est que les Africains auraient dû mourir de la traversée et du travail aux Amériques. Non seulement ils ne sont pas morts, mais en plus ils ont résisté, des communautés en sont sorties, ils ont résisté militairement, ils ont vaincu l'esclavage en Haïti, ils ont résisté culturellement, ils ont résisté biologiquement, et parmi eux d'ailleurs un certain nombre sont sortis des Amériques pour venir en Europe. Don Pedro, vous avez en ce moment un projet de film sur un personnage très peu connu de la plupart des gens, Severiano de Heredia, qui joue un rôle important dans l'histoire de Paris.
Non seulement Severiano de Heredia joue un rôle important dans l'histoire de Paris, mais aussi de la France, puisqu'il a été ministre de la République. Il a côtoyé, comment dirais-je, tous les Gothas parisiens de l'époque, notamment de Victor Hugo, en passant par Jules Ferry et consorts. Et ce qui m'a attiré sur ces personnages-là, c'est en fait ma démarche, moi, c'est faire en sorte que comment procéder pour favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui les concepts de vivre ensemble. Cela doit passer par la connaissance de l'histoire. Et à partir de là, lorsque on arrive à connaître les personnages qui sont méconnus et qu'on révèle un peu plus, ça va forcément attirer des gens. Entre guillemets, les combats qu'on mène aujourd'hui ne concernent pas que l'Afrique. Et moi, j'ai toujours dit que lorsqu'on parle de la diaspora, il ne faudrait pas qu'on s'arrête sur la diaspora dite africaine. On vit dans une période mondialisée, comme on dit, on est au XXIe siècle. On doit se battre ensemble, être unis pour apporter une nouvelle connaissance dans ce monde. Et cela passe par, entre guillemets, la révélation des personnages comme Severiano de Heredia, qui en apparence, il n'avait rien, entre guillemets, à être français, puisqu'au départ on disait qu'être français, être blanc. Mais en fait, ils se sont rendus compte que même parmi les Français blancs, il y a des ascendances africaines, pour ne pas dire noires. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire ce film pour montrer que finalement, lorsqu'on parle d'intégration, l'intégration n'est qu'un mot, puisque l'esprit d'intégration existe toujours, notamment à travers des personnages comme Severin d'Heredia.
Vous le situez quand, celui-là ?
Exactement. Ce qui fait un lien avec notre ami Nicolas, il est né à Cuba en 1836. Il arrive à Paris à l'âge de 10 ans. Et donc, en 1845. Et donc, il arrive à Paris où il fait des brillantes études et que, à sa sortie, il commence à fréquenter tous ces bons mondes, puisque quelqu'un à l'esprit brillant ne pouvait pas être mis de côté. D'autant plus qu'à l'époque, il a été victime des colibés, les mêmes colibés qui, un siècle ou presque des siècles plus tard, on les ressent encore aujourd'hui.
Oui.
La question que moi je me posais, que n'a-t-on pas fait pour que ces colibés d'il y a un siècle ou plus continuent jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas encore accepté la présence des hommes dits noirs? C'est là où moi, personnellement, je combats la notion des apparences. C'est-à-dire qu'on doit juger quelqu'un en fonction de ses actes. Donc, ce film est en préparation. Vous savez qu'une thématique comme ça, on aura du mal à réunir les budgets nécessaires pour les faire. Mais je fais partie d'une équipe qui est déterminée à faire en sorte que ce film soit concrétisé, que ce projet aboutisse. Ça sera un plus pour moi que je vais apporter dans ces concepts que j'appelais les vivre ensemble.
Justement, dans la promotion de l'histoire générale de l'Afrique, nous pensons que il faut montrer un certain nombre de figures et chaque fois renouveler ces figures. Il y a des figures que nous connaissons très bien, Nganga Nzumbi au Brésil, Toussaint Louverture, etc. Mais quand on cherche, on voit chaque fois qu'il y en a encore un autre, et puis un autre, et puis un autre, comme si la diaspora africaine, c'est un monde immense, il y a des anonymes, mais il y a aussi des gens connus qu'il faut faire ressurgir pour qu'on les voit un tout petit peu plus.
Brièvement par rapport à ça, vous avez évoqué la figure importante de l'histoire de la France, notamment Toussaint Louverture. Mais au-delà de Toussaint Louverture, il y a un monsieur qui s'appelle Makandala. Voilà encore un nom Congo que les anglophones ont appelé Magdal, et ainsi de suite. Mais nous avons réussi à savoir que ce Makdal n'est autre que le Makandala, c'est un nom purement du royaume du Congo, qui fait que, compte tenu de ce que les gens originaires, les anciens esclaves originaires du Congo, avaient fait, notamment dans la libération du Cuba et du Venezuela, on s'est dit que nous avons des modèles à faire surgir. Pourquoi ? Parce que il est temps maintenant que nos générations futures aient des modèles sur qui s'appuyer pour se donner, comment dirais-je, une espèce de confiance, dire que finalement, nous aussi, nous pouvons arriver. Et chose curieuse, lorsqu'on parle des royaumes du Congo, on fait allusion à Mama Kimpavita, par exemple, okay, qui a été, comme vous le savez, notre Jeanne d'Arc, comme on dit, qui a été brûlée avec son enfant. Or, Makandala aussi a subi les mêmes sorts en Haïti. Donc, on se dit qu'il y a des liens historiques, entre guillemets, qui se répètent à distance, même à plusieurs siècles de distance. On se dit que ce sont les mêmes faits qui se répètent. Le problème, j'insiste, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire en sorte que l'humanité marche dans la même direction? Je pense que dans le cadre de cette émission, qui met en exergue la mémoire, c'est pas seulement la mémoire africaine, mais la mémoire du monde entier. Parce que j'insiste, moi, je célèbre l'universalisme. Il nous faut d'abord mieux nous connaître, donc passant par l'histoire, pour avoir la chance de vivre ensemble.
Nicolas Localzo, votre exposition, c'est à Vichy, une ville très importante au centre de la France. Là aussi, ce n'est pas à Paris, mais c'est dans un autre endroit. On peut penser que les effets de rayonnement sont peut-être plus puissants que dans une ville comme Paris, où il y a tellement de choses que les gens ne voient pas. Là-bas, nous sommes au cœur de la nation, si on peut dire. Hein.
Oui, c'était aussi une opportunité qui m'était donnée d'exposer à Vichy. Donc l'exposition Regla, donc le travail qui était réalisé à Cuba va être aussi présenté à Paris pour le, en 2017 et évidemment j'espère aussi de pouvoir le présenter bientôt à Cuba, le pays où j'ai pu rencontrer les personnes, enfin, toutes les personnes que j'ai photographiées et aussi les personnes qui m'ont aidé, m'ont supporté pour réaliser ce travail. C'est un travail complexe à faire, dans la mesure où j'ai travaillé sur des communautés aux marges de la société cubaine, et pour cela je suis très reconnaissant de cette proximité qui m'a été accordée par les personnes photographiées.
Donc Pedro, pour finir.
Voilà, pour finir, juste un mot, je dirais une précision à apporter sur les personnages de Heredia. C'est vrai, un Heredia qui était anonyme, que personne ne connaissait, mais enfin, aujourd'hui, il y a une rue qui lui est consacrée sur la place parisienne, dont l'inauguration avait eu lieu le 5 octobre 2005, 2015 plutôt, par la mairie de Paris. Ça se trouve dans les 17e arrondissement, dans les quartiers de Batignolles exactement, où il a été député maire à l'époque de son règne, quoi, en fait. Donc tout le monde était là, y compris l'ambassadeur de Cuba.
Voilà, donc on n'éteint pas l'histoire quand on la pense oubliée. Elle ressurgit toujours à un moment donné par la mémoire et par le travail que la peinture, la photographie, le cinéma peut faire. Donc nos livres d'histoire ont pour compagnon justement le travail des artistes que vous êtes. Merci à vous, Don Pedro et Nicolas Localzo, d'être venus à notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.